Shalom, bracha tout le monde. Nous sommes au chapitre. C'est fini, c'est bouffant là. Bon. Au chapitre Yutret, du Bereshit. Au verset Tet. N'est-ce pas? Hein? Quel problème? Comment? C'est un effet de la providence, direct. Oui, absolument.
Je peux postuler au prochain poste de Mashiach ?
Non, au prochain poste de Mashiach, pourquoi pas. Allez, bah voilà, pourquoi. Ouais. Mais c'est assez serré là-bas, il y a plein de postulants. Ouais, j'en ai rencontré pas mal déjà. Bon. Chapitre Yutret, verset 7. Vayomu Elav. Est-ce que aujourd'hui c'est ton anniversaire par hasard ?
Non.
Non, ce n'est pas le mien non plus. Quelle coïncidence. Bon, Vayomu Elav, il lui dit, Aye Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Vayomer Hine Baorel, il répondit, la voilà dans la tente. Bon, ce mode d'adresse est extrêmement surprenant. Si un ange ou Dieu a quelque chose à dire, ou même un prophète, qu'ils le disent. Pourquoi a-t-il besoin de dire « Où est Sarah ta femme ?» Comme s'il ne le savait pas. D'accord ? Pourquoi, de toute manière, même s'il ne le savait pas, pourquoi la question a-t-elle été amenée dans le texte ? Le texte aurait pu se passer de ce détail. C'est-à-dire que la Torah n'amène pas n'importe quoi. Elle amène des choses qui sont importantes pour l'intelligence de l'événement que nous rencontrons. Donc s'ils disent Aye Sarah Ishtera, ou Sarah Tafan, ça a donc une signification. La signification est que ça se passe sous forme, d'incidence. C'est comme par hasard. Comme par, au fait, où est-ce qu'elle est, Sarah? On va voir par la suite que dans le dialogue avec Sarah, qui va s'instaurer maintenant, tout se passe comme si on ne parlait pas directement à Sarah.
C'est comme si.
Oui, mais c'est bizarre. En fait, si c'est une vision prophétique, tout ce qui se passe là, et que Sarah fait partie de la vision, donc elle aussi, elle prophétise. Ou pour dire, c'est quasiment, c'est une prophétie à deux. N'est-ce pas? Bon.
Pour voir Rachid, c'est pour montrer qu'elle est décédée.
Ça, c'est les enseignements que nous en retirons. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre monde, un comportement à la manière de Sarah? Mais chez Sarah elle-même, ça n'a rien à voir avec la tzniut, ça a un rapport avec la nature même de sa prophétie. Et ça que nous allons devoir élucider. Vayomer, il lui dit, Shov Ashuv Elecha Kaet Haya, je reviendrai auprès de toi l'année qui vient. Veine ben Sarah Ishtera, et il y aura un fils pour Sarah ta femme. Ve Sarah Shomaat, Sarah entendait, Petach Ha'ohel V'Uacharav, à l'ouverture de la tente, et lui après lui. Pas très clair ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on annonce à Abraham que Sarah va avoir un enfant. Petite question, est-ce qu'Abraham ne le savait pas? Il le savait, comment tu sais qu'il le savait? Dans le chapitre précédent, ça a déjà été dit. N'est-ce pas? Au chapitre précédent, au verset Tetvav, non, pardon, au verset Tetzain, pardon, il est dit en toutes lettres que Sarah va avoir un fils. Et quelle est la réaction d'Abraham quand il entend ça?
Il rit,
n'est-ce pas? Et après, quand je lui dis, Sarah va avoir un fils, il l'appellera Yitzhak, le rieur. À cause de quoi? À cause de ton rire. Donc, Abraham est déjà au courant, il connaît déjà le nom de l'enfant qui va naître, et il sait que c'est lié au rire. Alors, qu'est-ce qu'on lui apprend ici? Alors, qu'est-ce que disent les superficiels appelés les critiques bibliques? Les critiques bibliques disent qu'il y a ici deux récits. Un qui dit que le rire était celui d'Abraham, et l'autre qui dit que le rire était celui de Sarah, et que le rédacteur en chef de la Bible n'a pas fait attention au fait qu'il présentait ici deux textes qui ne concordaient pas, il les a collés ensemble avec du scotch. N'est-ce pas?
Deux points de vue différents,
oui, d'accord, mais pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham et alors il a ri, ou est-ce qu'il a annoncé à Abraham et que c'est Sarah qui a ri? D'accord? Vous comprenez le problème?
Oui.
Alors, la critique biblique, qui a l'habitude d'être superficielle, dit c'est très simple. Il y a ici deux récits, deux traditions différentes, qui ont été mises ensemble par le rédacteur en chef. Maintenant, comment il faut comprendre la prophétie? Le problème, c'est que si on avait, par exemple, un récit double, et que ce récit, ce phénomène se passe une fois ou deux fois dans la Torah, alors la thèse de la critique biblique peut-être commencerait à avoir du sens. Le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça dans la Torah. C'est-à-dire depuis le début de la Torah jusqu'à la fin du Tanakh, nous avons toujours des récits doubles qui se contredisent. Alors peut-être que c'est une méthode. Peut-être que ça fait partie du style même de la Bible, qu'elle parle dans deux langages comme s'il y avait deux récits différents. En effet, comment ? Très brouillon, de tout le Tanakh. C'est-à-dire bien que le Tanakh est fait de 24 livres différents, de différents auteurs, donc probablement. Et donc, je veux dire que tous ont eu le même défaut de rédaction. Tous n'ont pas fait attention, quand ils remélangeaient leurs fiches, comme ça, qu'ils n'ont pas bien raccordé les coutures entre les différents morceaux. Ah, à moins de dire que le rédacteur en chef est donc le créateur du monde lui-même, qui est intéressé à ce que le style de sa révélation soit justement fait de ces deux niveaux-là. Alors c'est probablement que la Torah veut nous enseigner quelque chose de très profond. C'est que tout se passe à deux niveaux. Il y a toujours deux niveaux dans les phénomènes, dans les événements. Alors, il y a ici par exemple un phénomène important, la révélation, la prophétie. Qui c'est qui fait prophétiser Abraham dans le chapitre précédent? Qui? Non, pas du tout. Oui, qui c'est qui s'adresse à Abraham?
C'est Elohim.
C'est Elohim, évidemment. Et dans notre chapitre à nous?
C'est Hachem,
avant la circoncision, après la circoncision. Donc c'est la même prophétie qui revient, elle est reçue différemment. Elle est reçue différemment en fonction de si c'est Elohim qui parle ou si c'est Hachem qui parle. Et donc le réceptacle n'est pas le même. Abraham a fait une transformation dans son être à travers la circoncision. Et donc maintenant, il y a une participation du rire de Sarah au rire d'Abraham. Ce n'est plus le rire de... C'est-à-dire que ça se décale. Mais c'est la même révélation. Ce n'est pas deux prophéties différentes. C'est la même dans un autre réceptacle. Vous avez compris? C'est comme si vous prenez un contenu, un liquide par exemple, vous le versez dans un récipient, et qu'après, vous décidez de prendre le même contenu, de le reverser dans un autre récipient. C'est le même contenu, dans un autre contenant. Qu'est-ce que t'en sais? Elle est présente dans la première prophétie de manière, disons, implicite. Il dit, ne l'appelle pas Sarah, elle s'appelle Sarah. Donc elle est là. Là aussi, elle est là. D'accord? C'est comme ça que ça doit être compris. Mais ça, c'est déjà trop complexe pour une pensée de critique biblique. La critique biblique a une origine allemande. La culture allemande est dénuée, souvent, de nuances. Il y a de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans les choses. Et donc, ce n'est pas la même prophétie, vous comprenez? Ça ne va pas. Verset Yudalef.
Quoi? Il y a plusieurs critiques.
Oui, bien sûr. Non, je ne suis pas rentré dans le détail. Là. Il y a des nuances aussi. D'accord. Mais bon, mon sujet n'est pas la critique biblique. Simplement, je me suis servi de ça pour expliquer la dichotomie dans le texte. Verset Yudalef. Ve'Avraham ve'Sara zekenim. Or Avraham et Sarah étaient vieux. Ba'im bayamim, avancés dans les jours. Hadal yot le Sarah or arkanashim. Sarah a cessé d'avoir le chemin des femmes. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus ses règles. Alors, avoir les règles, c'est ce qui justement, ça prouve qu'il y a fécondité. Elle n'était plus féconde. Va'titzrak Sarah bekirba les morts. Et Sarah ria en son sein. En 10 ans. Achare beloti. C'est-à-dire, on va faire une rebelote. Après la première belote, Aetali Edna, je vais rajeunir. C'est-à-dire, bon, belote en hébreu, ça veut dire flétrir. C'est-à-dire, après avoir perdu sa jouvence, elle va redevenir jeune, Aetali Edna. Vadoni Zaken, mon maître est vieux. Son maître, c'est qui? Ah, qui ça peut être?
C'est
ça donc Abraham, ou bien? C'est intéressant. Est-ce que Dieu a vieilli? J'en sais rien, on va voir. En tout cas, c'est vrai que dans la première lecture, non, c'est intéressant ce que tu dis. Dans la première lecture, Sarah a une objection. Elle dit, mais enfin, je suis vieille, mon mari est vieux, alors on va avoir un enfant. Elle en rit. Ah bon? Que répond? Vous allez voir, c'est très compliqué ce texte. Réponse, Vayomer Hachem el Avraham. Avraham, Dieu dit à Avraham, Lamazit Sahaka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah a-t-elle ri? À nouveau, vous voyez que la manière dont on s'adresse à Sarah est d'une manière indirecte. Les morts, en disant Afumna Meled, comment pourrais-je enfanter? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Sarah pense qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Vanisa Kanti, est-ce que moi j'ai vieilli? Vous avez compris? Qui c'est qui pose la question? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, enfin, j'ai quand même pas vieilli, moi. Parce que quand elle dit, mon maître est vieux, c'est vrai que ça veut dire Abraham. Mais elle fait dépendre l'impossibilité d'avoir un enfant, ou la possibilité d'avoir un enfant, d'elle et d'Abraham. Or, c'est faux. Ça ne dépend pas d'elle, ni d'Abraham. Ça dépend de celui qui l'a créé. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a vieillissement chez les hommes, mais comme Dieu n'est pas vieux, donc tout est possible, le miracle est possible. Donc, ce que dit Akadosh Baruch Hu, c'est qu'en fait, quand elle a dit « mon maître est vieux », ça supposait que c'était Dieu qui était vieux, et ça, c'est un blasphème.
C'est le refus de parler à Sarah
maintenant ? Non. L'indirect avec Sarah, on va bientôt voir ce que ça veut dire. D'accord ? Mais vous avez compris, donc, le « va'ani zakanti » et « j'ai vieilli », c'est une interrogation rhétorique du Créateur qui dit « enfin, est-ce que j'ai vieilli, moi ?» Est-ce que vous avez l'habitude de lire ce verset de cette manière ?
Non.
Non, n'est-ce pas ?
Comment Sarah peut penser que Dieu est...
Oui, c'est ça.
Non.
Elle a pensé
à Abraham.
Ah,
mais ce que dit Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu fais dépendre ta fécondité d'Abraham, ça voudrait dire que moi j'ai vieilli. C'est-à-dire que depuis la création du monde, que lorsque j'ai innové la nature, maintenant je ne peux plus rien innover. Vous avez compris? C'est, il fait le vexer. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. Et ça vous étranglerait quelque part de dire Baruch Hu, Baruch Shemo? Maintenant. Maintenant, comment?
Oui.
Bon. Donc, Vaani Zakati, est-ce que j'ai vieilli? Maintenant, qui vous dit que cette lecture est la bonne? Tout simplement, la suite. Aïpale, Mehachem, Davar, une chose est-elle impossible à Dieu? Ça veut donc dire que c'est en réaction à une sorte de manque de foi de la part de Sarah. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est absolument incroyable une chose pareille. Comment Avraham et Sarah, qui nous ont enseigné la Emouna, c'est de ces deux que la Torah témoigne qu'ils ont eu un manque de foi?
Jusqu'à présent, ils étaient la foi à la réalité, mais...
En fait, voilà. Ce que tu dis là est très vrai. Ça veut dire que c'est le premier miracle de l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire que la nature est brisée. Maintenant, pour quelqu'un qui connaît Dieu comme le créateur du monde, Elohim, en tant qu'auteur de la nature, admettre que la loi de la nature va changer pour qu'Abraham ait un enfant, c'est ça le blasphème. C'est-à-dire, si on demande à Sarah, est-ce que le miracle est possible? Elle dit, ça ne va pas à la tête, moi j'ai la foi. Vous comprenez? Très différent de la foi moderne. C'est-à-dire pour Sarah, considérer que la nature pourrait être brisée, ça voudrait remettre en, ça remettrait en question l'œuvre du Créateur. Vous ne vous rendrez pas compte ce que ça veut dire. C'est une honte de penser une chose pareille. Donc, s'il prie pour que Akadosh Baruch Hu intervienne à travers les lois de la nature, mais pas pour qu'il transforme les lois de la nature. Or, justement, c'est ça dont il est question ici. Et donc, Sarah a tout à fait raison de dire, mais enfin, ce n'est pas possible. Oui?
Pour
quand le déluge, Nimrod. Deux objections, n'est-ce pas? Je peux les considérer l'une et l'autre? Très bien. Le déluge, qui te dit qu'il y a eu le déluge? Comment est-ce qu'on le savait? Noir, Noir n'a rien vu. Il était dans son arche.
Il était dans son arche parce qu'il y a eu le déluge.
C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, il y a le déluge à l'extérieur, mais il n'a pas pu le vérifier. Et les victimes, elles sont mortes. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de miracle vécu dans le souvenir. C'est-à-dire que Noar n'a jamais vécu un miracle. Il était l'objet du miracle, mais il était à l'intérieur.
Et la petite vigne qu'il a eue après.
La quoi, là?
La petite vigne qu'il a eue après.
La petite vigne. Pourquoi planter une vigne, c'est un miracle?
Bah, parce qu'elle a poussé tout de suite.
Ah bon? C'est écrit où, ça? Non, ben non, ben non. Il y a peut-être un midrash qui le dit, mais en tout cas, un midrash, c'est que la moitié d'un drash. Or, il y a pas, c'est pas écrit. Bon, c'est-à-dire que le midrash a sa manière de s'exprimer. Mais la Torah dit comme donc qu'il a planté une vigne et qu'il en a bu le vin. Combien de temps ça lui a mis, c'est pas écrit. Mais non, la deuxième objection, c'était Nimrod et la fournaise. C'est-à-dire qu'il jette Abraham dans la fournaise et Abraham en sort vivant. N'est-ce pas? Comment? Ça, c'est la question. D'accord? Ça, c'est la question. D'accord? Maintenant, petite question sur la question. C'est écrit où, ça, qu'Abraham était jugé dans la fournaise?
Ah non, on peut pas dire ça. On l'a dit, mais c'est sûr que c'est pas écrit spécifiquement.
La chèvre, c'est Tirham,
l'Urkazim. Je t'ai fait sortir d'Urkazim. Oui, c'est une fille, c'est un truc très métaphorique, ça. J'aime savoir où est-ce que c'est écrit en toutes lettres qu'Abraham était jugé dans la fournaise et sauvé? Dans le Midrash. Ça veut dire, si c'est du Midrash, alors ça peut, c'est sujet à beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire que même si c'est historique, et je suppose que c'est historique, Abraham a été sauvé miraculeusement, ce n'est pas dans le conscient de la mémoire d'Abraham et Sarah. La preuve, c'est que la Torah n'en parle pas. Ce n'est pas dans la logique du récit. Donc, le premier miracle vécu par des hommes, souvenu des hommes, et dont la Torah témoigne, c'est celui-là. Donc, la question de Sarah est tout à fait pertinente. Un miracle, pas possible. Ça s'est encore passé. Donc, maintenant, il y a un grand principe chez nous. Quand une question est posée pour la première fois, elle est légitime. Une fois que la question a été posée, qu'elle a reçu sa réponse, reposer la question est illégitime. Ça veut dire que pour Sarah, remettre en question le miracle, c'est tout à fait cachère. Pour un bon petit juif comme nous, remettre en question le miracle, c'est illégitime. Vous avez compris? Mais alors c'est pour ça que le Midrash n'amène pas... C'est pour ça que Rashi n'amène pas la lecture du verset que je vous ai donné. Parce que, n'oubliez pas, la manière dont j'ai lu le verset, c'est écrit en toutes lettres dans le Midrash. Vani zakanti mila asot nissim, est-ce que j'ai vieilli de faire des miracles? C'est écrit dans le Midrash. Mais Rashi n'amène pas cette interprétation, il n'amène que la deuxième. Pourquoi? Parce que Rashi a pour grande règle de n'amener des Midrashim que des interprétations qui ont des conséquences pour les générations à venir, et pas pour le temps où ça a été dit. Or, la question se pose, si ça n'avait un sens, si le sens de la question de Sarah c'est est-ce que le miracle est possible, la Torah n'aurait pas dû l'écrire. Parce que pour nous, les lecteurs, ça remet en question notre foi. Et donc, ça présente Sarah sous un jour dépréciable. Mais si la Torah l'a née, c'est qu'elle voulait nous enseigner encore autre chose. Qu'est-ce qu'elle voulait nous enseigner? Eh bien, Kakadosh Baruch Hu a employé une règle de Derech Eretz, qu'il a changé les paroles de Sarah pour ne pas choquer Abraham. C'est pour ça qu'au lieu de dire « Vadoni Zaken, mon maître est vieux », Kakadosh Baruch Hu dit « Vani Zakanti », chez moi, c'est moi qui ai vieilli, ça veut donc dire que Sarah parle d'elle-même comme ayant vieilli, elle ne parle pas d'Abraham. D'accord? C'est une question de Derech Eretz. C'est vrai que ce n'est pas le pshat, mais ça, c'est la conséquence, c'est l'enseignement que nous en retirons, nous, pour notre génération.
Et si oui. On dit que la vie d'Aken, le sujet, c'est Abraham.
Oui.
Biologiquement, non, il peut donner la vie.
C'est... Oui. Mais il y a aussi un moment où on ne peut plus. Biologiquement.
Aujourd'hui,
Ça dépend de quel état. Il y a des états de vieillissement où ça devient plus possible. D'accord? Et donc c'est ça qu'elle a voulu dire. Dans ce cas-là, c'est un peu gênant pour Abraham. Alors, la Torah a fait comme si Akadosh Baruch Hu avait changé pour ne pas choquer Abraham. D'accord? Alors qu'en vérité, c'est pas ça dont il est question. Donc, vous avez aussi une règle très importante dans l'intelligence de ce que dit de l'intelligence de Rachid, la manière qu'a Rachid amené les Midrashim. Oui.
Si elle avait dit Baal,
Non, ça n'aurait pas servi à grand chose. Parce que Kadosh Baruch Hu aussi porte le nom de Baali parfois. Bon. Verset Yudalet. Aïpale, mais Hachem Davar, une chose est-elle impossible à Hachem? La moad Ashuv Elecha Kaet Chayol Sarah Ben, je reviendrai à la même date, au même moment, et Sarah aura un fils. Et là, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Je lis ici le verset Tedvav. Vatechahesh Sarah. Et Sarah nia. Les morts, disant, Lotachakti, je n'ai pas ri. Qui a réa, car elle était dans la crainte. Vayomer, il les dit, Lo, non, Kitzachak, tu as en vérité ri. Atmosphère de jardin d'enfants. Qui c'est qui a touché à la craie de couleur? C'est pas moi. Si, c'est toi. Regarde tes mains comme elles sont sales. C'est à peu près ça, hein, le niveau de ce qui se passe là. D'accord? Alors, vous comprenez, il s'agit donc d'Abraham et Sarah, les ancêtres d'Israël, qui prophétisent, qui ont une prophétie de très haut niveau, d'après ce qu'on avait vu dans les premiers versets. Et puis, ça devient des enfantillages. Et elle a nié parce qu'elle avait peur. Et puis, non, c'est tu as quand même ri. Nanana. Qui a réa? Je reprends ici. C'est quand on fait attention au texte, on voit qu'il y a écrit qui a réa. Première, attends une seconde, quoi, quelle première personne, où ça? Vatechachesh Sarah.
Je n'ai pas ri, car elle avait peur.
C'est ce qui se passe quand on coupe un verset, au lieu de le lire en entier. Vatechachesh et Vatechachesh Sarah, Sarah nia, les morts en disant, Lotzachakti, je n'ai pas ri. Qui a réa, car elle était dans la crainte. Elle avait peur. D'ailleurs, il dit, on ne sait pas qui exactement a dit, l'homme, non, Kitzachak, car tu as ri.
C'est Hachem qui dit ça ou c'est Abraham?
On ne sait rien. Enfin, vous trouvez ça normal, ça? C'est-à-dire, c'est très gênant, ce genre de verset.
Hein? Peut-être qu'elle a pari.
Elle a pari, c'est pour ça qu'elle a dit avoir ri, elle a donc raison. Le problème est de savoir, qui c'est qui a ri? Essayons de retrouver le verset où il est dit que Sarah a ri. Le verset, je demande le numéro du verset. Yudbet. Alors voyons le verset Yudbet. Vatitzrak Sarah et Sarah ria Bekirba. Que veut dire le mot Bekirba? Hein? En son fort intérieur. Alors maintenant, ça peut être physique, ça peut être mental. Si c'est physique, alors les Chachamim nous disent c'est qu'elle a eu brusquement ses règles. Donc ça la fait rire. Et si, là, s'il se passe quelque chose. Bon, ça c'est donc c'est rigolo. Oui? Oui, c'est vrai, on dit ça aussi. Et donc, elle a brusquement ri, parce qu'il s'est passé quelque chose en son sein. Ça, c'est la première interprétation. Deuxièmement, c'est quoi l'intérieur de Sarah? Sa conscience? La conscience n'est pas tellement intérieure, c'est vécu. C'est dans son âme, dans sa neshama. Si vous voulez rationaliser, vous direz dans son inconscient. C'est, il se passe quelque chose dans une région très très profonde de Sarah. Il y a là-bas un rire. Dans le conscient de Sarah, qu'est-ce qui se passe? Elle ne rit pas du tout, elle est très sérieuse. Elle a la crainte. Donc, regardez à nouveau le verset Tedvav. Vatechachesh Sarah, les morts. Sarah nia. Elle est sincère. Elle nie sincèrement. Les morts en disant, l'autre Sarah, si je n'ai pas ri. Qui a réa? Car elle était pleine de crainte. La crainte ici, ce n'est pas la peur. Elle avait ce qu'on appelait la crainte de Dieu, l'Ira Tchamay. Vayomer, l'eau, il lui dit non. Kitzara, car tu as ri. C'est-à-dire, il vient révéler à Sarah qu'elle avait ri quelque part. Comment?
Pourquoi on l'accuse ici de la crainte?
De quoi?
D'avoir ri. Je
ne sais pas. Ah bon? Regarde au verset Yud Gimel.
C'est quoi le problème qu'elle avait?
Une seconde. Vayomer Hachem el Avraham. Lama zet Sarah Sarah. Dieu dit à Avraham, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Sarah répond, mais je n'ai pas ri.
Pourquoi elle
répond
directement?
Parce que c'est la prophétie adressée à elle. Bien que le style de la prophétie est indirect, en fait, c'est adressé à elle. On n'a toujours pas répondu à cette question de pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Sarah ne se rend pas compte qu'elle rit. Et donc, la prophétie lui révèle qu'elle avait ri. Alors, j'aimerais comprendre d'où vient le rire qu'elle avait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ont dit les anges là? Ils ont annoncé que Yitzhak allait naître, n'est-ce pas? À partir du moment où c'est déclaré par une voix prophétique, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde métaphysique? À partir du moment où Dieu annonce, Yitzhak va naître, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement où?
En elle.
En elle? Oui, et puis quoi encore? Dans le monde des âmes, quelque chose se passe. C'est-à-dire, la Neshama d'Yitzhak commence son chemin. Et il passe par où, Yitzhak? Il passe par la Neshama de Sarah. Jusqu'à ce présent, il n'y a pas encore de rapport sexuel entre Abraham et Sarah. Mais il se passe quelque chose dans le niveau des Neshamot d'Abraham et de Sarah. Et donc, Yitzhak passe par là-bas. Ça chatouille. Non, c'est l'âme de Sarah qui rigole. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on rit? On rit quand il y a une surprise. C'est ce que dit Bergson dans son bouquin Le Rire. Là, on est surpris, ça fait rire. Et il y a une surprise dans la Neshama de Sarah. Et il faut qu'elle se prépare à ça. Elle doit se préparer mentalement à être celle qui va porter en elle le tzaddik de la Midat Hadin, celui qui va continuer Abraham à sa manière. Et donc, elle doit savoir qu'elle a ri. D'accord? C'est pour ça que ça se passe comme ça. Maintenant, de quelle manière c'est transmis? Par voie indirecte. Comme si on rigolait. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Où est Sarah? Comme si on ne savait pas. C'est une blague. C'est-à-dire, l'atmosphère est une atmosphère folâtre à dessein. C'est-à-dire, c'est une sorte de prophétie qui est transmise dans le rire. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le nom d'Yitzhak. C'est tout ce que représente Yitzhak, c'est une forme de rire. C'est quoi le rire? Le rire, c'est le niveau suprême de la connaissance de Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez que, bon, chez les goïms, souvent, le divin, c'est du sérieux. Il y a une sorte de tristesse hiératique, n'est-ce pas? Le sérieux de la religion. Et dans la Torah, on parle de la joie. La joie, hein, parce que c'est la plénitude de l'être, ça se présente sous trois formes différentes. La première, qu'on appelle Sasson. Sasson, c'est quand on est occupé. Sasson, occupé. Et Sasson représente le sentiment que l'on a quand on est en direction de la plénitude. Par exemple, je remplis un verre. Il n'est pas encore plein. Il est en train de se remplir. Il y a une sorte de joie du fait que ça se remplit. Ça s'appelle Sasson. Le verre est plein. Je suis satisfait. Ça s'appelle comment? Simcha. Il y a la joie. C'est la joie de la satisfaction. Donc il y a Sasson, Simcha. Et puis quand ça déborde, il y en a trop. Ça ne peut pas. J'arrive pas à le contenir. Le contenu, en hébreu, chok. La limite, oui. La limite, chok. La loi, d'ailleurs. La loi se dit chok. Une part. La part qui me revient, c'est Rookie, ma part. Et quand on sort du rock, c'est rock. C'est-à-dire, on dépasse le contenu, c'est le rire. C'est rock. D'accord? Et donc, quand il y a un contenu qui n'est pas assimilable par nos réceptacles à nous, ça s'appelle le rire. Alors justement, ce que représente Yitzhak représente un niveau d'être extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que celui d'Abraham et de Sarah. C'est du nouveau, ça fait rire. Vous avez compris? C'est pour ça que la Guémara dit que la question qui se pose dans la Guémara, dans le traité d'Arvo d'Azara, est-ce que Dieu a le sens de l'humour? Une question comme ça, oui, bien sûr, une question très importante. D'ailleurs, il y a un roman qui a été écrit par un Italien et qui s'appelle Le nom de la rose, qui tourne autour de ça. Est-ce que Dieu peut rire, n'est-ce pas? Bon, là-bas, ça se passe dans un monastère, alors vous comprenez qu'ils sont très hostiles à l'idée. Mais dans le Talmud, au contraire, il y a un rire divin. Et la Guémara dit... Amar Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak qui disait, c'est pas par hasard qu'on a pris ce nom-là. Enzrok lifna kadosh baruchu la otoyem bilvad, le seul jour où Dieu rira, ça sera ce jour-là, le jour où les goyim feront une souka et qu'ils ne riront pas à la faire. Connaissement. Alors la Gemara dit, mais c'est pas possible. Comment tu dis que Dieu ne rit que ce jour-là alors que nous savons qu'il s'amuse 3 heures par jour avec le Léviathan? Alors la Gemara répond, non. Dieu rit avec ses créatures, même maintenant, mais rire de ses créatures, c'est ce qu'on appelle de l'humour noir, ce n'est qu'à la fin de l'histoire. C'est un niveau de rire qu'on ne connaît pas encore. D'accord? C'est-à-dire que le rire est réservé à des choses extrêmement sérieuses. Et c'est ce que représente donc Sarah, ce que représente Yitzhak. C'est pour ça que la manière dont la neshama d'Yitzhak apparaît à travers la prophétie se fait dans une atmosphère de rire. Quelque chose qui dépasse. C'est toi ? Oui.
C'est quoi la différence entre Tzerok, c'est-à-dire Rechkouf, et Sichil, Rechkouf, Tzed, Kouf ?
Non. Tu veux dire tzadik resh kouf, sin resh kouf ou tzadik ret kouf? Comment?
Tzadik ret kouf.
Oui.
Et sin ret kouf. C'est déjà le rire.
Il y a tzehok et sehok. D'accord? Tu vois quelle différence entre tzehok et sehok? Comment?
Quoi? Pourtant, il serait qu'il ne paraissait pas comme quelqu'un de.
Est-ce que tu as remarqué, une seconde, je respecte beaucoup ta question, mais est-ce que tu remarques que Julien vient de me poser une question et que j'attendais de ma part une réponse? Est-ce que tu penses que je peux ne pas lui répondre?
Non.
D'accord, donc je vais d'abord essayer de lui répondre. D'accord. Donc la question est, quelle est la différence entre Tzerhok et Tzerhok? Tzerhok, c'est ce qui sort de la loi, n'est-ce pas? Tzerhok, c'est ce qui... c'est ce qu'on essaye de supporter. Ça, en hébreu, c'est-à-dire soutenir. On essaie de soutenir plus que la loi. C'est ça, par exemple, dit ça à Hashem Pana Velecha. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est plus que ce que l'on a l'habitude de porter. En hébreu, le verbe porter, c'est l'aset. Le radical, la lettre sin. D'accord? Bon, où est-ce qu'on... tu voulais dire quelque chose? Oui. Quelle est ta question?
Non, tu dis... En fait, Yitzhak, il n'apparaît pas comme quelqu'un de...
Oui, Yitzhak a l'air d'être un personnage un peu pâle comme ça, n'est-ce pas? Un peu austère, d'accord? D'accord, oui. Oui. C'est ce qu'on lui a étiqueté. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir... quels sont les sentiments qui habitaient Yitzhak dans sa vie? Regardez une petite seconde au chapitre Kafvav, au verset Het. Chapitre Kafvav, verset Het. Chapitre Kafvav, Het. Tout de même. Appelé par les francophones Ret. Bon. Vayehi ki aruchulo shamayamim, ce fut lorsque les jours lui furent longs là-bas. Vayashkef avimelech melech pelishtim, avimelech roi des Philistins observa, bead achalon au-delà de la fenêtre. Vayar, il vit, veine, voilà, Yitzhak metzachek, que Yitzhak rigolait, et Rivka ishto, avec Rivka sa femme. C'est quoi qu'il rigolait? Les Chachamim disent, c'était l'acte conjugal. Hein? Alors c'est quoi Yitzhak dans la Torah? C'est un rigolo ou pas? Bon. Mais pourtant, c'est de lui dont il est dit Metzarek. C'est le seul des patriarches dont on décrit la vie sexuelle. C'est incroyable.
Si c'est à entendre comme ça,
oui. Mais le verbe employé, c'est Tzachak. Rire.
Oui, si
donc il avait sa manière de rire à lui.
Mais pourtant, c'est entendre sous quelle forme, rire ou...
Ben oui, mais c'était ça son rire. Ah. Oui, maintenant pourquoi est-ce que le rire, pourquoi est-ce que l'acte sexuel chez Yitzhak est appelé le rire? Parce que c'est une projection de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'il a des enfants, Yitzhak? Pour amener le tikkun olam. Pour réparer le monde. Hein? Et alors? Mais ça, on n'est pas encore arrivé à ça. Quand on arrivera à ces versets-là, on en parlera, bien sûr. On ne peut pas tout faire à la fois. Bon, donc vous avez compris ce qui se passe là. Maintenant, tout cela, cette scène en question, dans laquelle Abraham reçoit les trois personnages, etc., c'est une sorte de préparation à la naissance d'Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer tellement? C'est qu'Yitzhak est différent d'Abraham. C'est-à-dire que Yitzhak représente une autre manière d'être juste, qui est, pourrait-on dire, presque opposée à celle d'Abraham. C'est la midat ha-din, la rigueur, et la rigueur implique le jugement. Et le jugement implique des sanctions. D'accord, il y a des punitions, il y a des rétributions, etc. Et ça, c'est un monde assez étranger à l'intuition première d'Abraham. Et donc, il va devoir se mettre d'accord avec ça. Tout ça se passe en après-midi, n'est-ce pas? Le moment de Yitzhak. Et si c'est pour préparer Abraham, il faut donc lui expliquer que maintenant est venu le moment de juger la ville de Sodome. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a un lien direct entre la naissance d'Yitzhak et le jugement de Sodome. Maintenant, qui c'est qui juge Sodome? C'est Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Son tribunal céleste. Et là, il va se passer quelque chose de surprenant. Akadosh Baruch Hu va obliger Abraham à siéger dans le tribunal. Qu'il dise son avis. Oui? Il avait quoi? Il avait sauvé les sodomites. Oui, alors? Mais le problème, c'est que là, Akadosh Baruch Hu décide de détruire Sodome. Et il dit à Abraham, est-ce que tu es d'accord? Très embêtant, Abraham aurait pu lui dire, écoute, moi je ne me mêle pas de tes affaires. Hein. Toi tu veux faire Midatadine, moi ça ne me regarde pas. Et je dis, non. Maintenant tu es invité à siéger dans le tribunal, c'est toi qui vas décider, est-ce que j'ai raison ou pas de détruire la ville. C'est-à-dire qu'Abraham va ici devoir faire une transformation, accepter la Midatadine. Voyons de quoi il s'agit. Verset Tetzai. Vayakumu Mishama Anashim. Les hommes se levèrent de là-bas. Vayashkifu Alpene Sedom. Et se penchèrent en direction de Sedom. C'est-à-dire observèrent en direction de Sedom. Rashi nous fait remarquer que le verbe Lehashkif est toujours employé, sauf un cas dans la Torah, mais toujours employé en mal. C'est-à-dire, ils ont observé Sodome pour la condamner. D'ailleurs, c'est rapproché du verbe grec, skopos. Oui, skopos, c'est-à-dire observer. Le télescope, n'est-ce pas? Là, ça vient. Vayashkifu, c'est un verbe commun donc aux racines sémitiques et aux racines grecques. Il y a des choses comme ça un peu partout. Vayashkifu, bien Sodome. Il regardait en direction de Sodome. Maintenant, remarquez tout ça, ça se passe dans un état prophétique, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que voit Abraham, Abraham voit Akadosh Baruch Hu ou ses anges, enfin comme qu'il en soit, en train de juger cet homme. Avraham holech imam leshalecham. Abraham va avec eux pour les accompagner. C'est-à-dire quoi qu'Abraham accompagne des hommes qui vont condamner Sodome. C'est-à-dire qu'il participe au jugement. On lui dit qu'est-ce que t'en penses? Ben voilà, je suis avec vous pour décider. Alors, les chaléars en hébreu a deux significations, soit renvoyé, soit accompagné. D'où les deux interprétations pour le vaï béchalar paro, qu'on traduit soit par lorsque paro renvoya ou lorsque paro accompagna. Dans les midrashs. Il y a deux. Alors, il y a des midrashim là-dessus, mais ça, c'est pas le sujet de notre étude maintenant. Bon. Vachem ama, or Dieu disait, Amchase ani me Avraham, Asher ani osé. Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je fais? Vers Abraham, c'est comment est-ce que je peux ne pas faire participer Abraham au jugement de l'histoire? Vers Abraham, alors qu'Abraham certes sera une grande nation, ve'atsum et puissante. Ve'nivrei chubo kol goyei ha'aretz. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Qui est d'Ativ? Car je l'ai connu, c'est-à-dire je l'ai aimé. L'Eman Asher Yetzave et Banav et Beto Arav, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui. Veshameru Derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu. La Asot, de faire, pour faire. Tzedaka ou Mishpat, charité et justice. Qu'est-ce qu'Abraham sait faire des deux jusqu'à présent? La charité. Il ne sait pas faire la justice. Or, Kadosh Baruch Hu a dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il fasse les deux à la fois. Donc il faut qu'il participe. Les mains n'avaient Hachem à l'Abraham, t'as cher libérala, afin que Dieu amène sur Abraham ce qu'il avait promis de lui faire. Vayomer Hachem, c'est pour ça que Dieu lui dit. Zahakat Sedom va Amora qui rabba. Le cri qui vient de Sedom et de Amora est grand. Vechatatam qui kraveda meod. Et leur péché est très lourd. Oui?
Le nom d'Hachem qui
va créer.
Oui? Ça représente la
Mizakon? Oui, Midat Arachamim, oui. Il y a un peu des deux, effectivement. C'est d'accord, Michel, tu veux dire. Oui. Alors ça dépend. Le mot tzedaka a deux significations en hébreu. Ça dépend à quel mot il est accolé. Si tzedaka est accolé à mishpat, alors il veut dire charité, par opposition à mishpat. Mais si il est accolé à chesed ou à encore à d'autres mots, il veut dire alors justice. D'accord ? Oui.
Dans le verset de Zahir, Hachem dit que donc, il ne veut pas cacher Abraham. Ça veut dire qu'il y a une forme de prophétie pour Abraham, puisqu'il ne veut pas lui cacher. Est-ce que Abraham étant notre représentant, ce verset veut dire que toujours il y aura une forme de prophétie pour nous?
Alors justement, il y a un verset dans les prophètes qui dit « Kilo yaaseh Hashem Elohim davar kim gala sodo et alavada vanivim » L'éternel Dieu ne fait rien dans ce monde s'il n'a pas révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça voudrait donc dire que tant qu'il y a des prophètes, Akadosh Baruch Hu peut agir. Mais s'il n'y a plus de prophètes, ça voudrait presque dire qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas agir puisqu'il doit faire participer les prophètes.
Ou à l'inverse, il y a toujours des prophètes.
Ou bien qu'il y a toujours des prophètes, ou bien que tout ce qu'il va faire a déjà été dit aux prophètes, ou bien que, effectivement, quand il n'y a pas de prophète, il ne le fait pas. D'accord ? Rien de révolutionnaire. D'accord ? En tout cas, il y a ce problème, effectivement. Il est impossible que quelque chose de cardinal dans l'histoire soit fait sans que nous, les enfants d'Israël, ne soyons informés de la logique de la chose. C'est une des raisons pour lesquelles la Torah est écrite, pour qu'on sache comment ça fonctionne l'histoire. Oui ?
On
est un peu desséché, quoi. Nous sommes des ossements desséchés, c'est ce qu'a dit le prophète Yéhézkel, qui est appelé en français Ézéchiel, n'est-ce pas? Ce qui cause la déformation professionnelle des francophones qui disent Yéhézkiel. Ce qui est une erreur, il faut dire Yéhézkel. D'accord? Bon, je peux continuer? Oui, quoi encore? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux?
On utilise le nom Hachem dans le Kébaké pour embrasser Merva.
Ah, tu dis au verset Yudzaïn? Est-ce que tu as remarqué que ce n'est pas le nom de Dieu habituel qui a écrit là-bas? Le nom de Dieu, c'est Yud-Ké-Vav-Ké. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Yud-Zaïn? Il y a un Vav. Vav, Yud-Ké-Vav-Ké. Va, Donai. C'est pas? Que signifie ce Vav? Les Chachamim ont dit qu'à chaque fois qu'il y a écrit Va, Hachem, c'est Hu ou Bet-Dino, lui et son tribunal. Alors que Hachem, c'est Midat Arachamim, Va, Hachem, c'est la Midat Adin. C'est-à-dire, c'est les instruments du jugement qui sont mis en place à ce moment-là. Donc c'est le Vav rajoute ici quelque chose.
Et la question, c'est pas ça au départ.
Hein?
La question de départ, c'était...
Oui. Bon, j'en ai profité. Oui. Quoi?
Est-ce que ça part... on a vu qu'il y avait un changement de développement. Il n'est pas devenu OK.
Ah oui.
Et on n'a jamais vu que la chaîne n'est pas tout dire à moi. Il lui a dit que ça n'a pas tout dire à moi.
Non, il va lui dire, je vais tout te dire au niveau du jugement. C'est-à-dire, je vais t'enseigner ma manière de juger le monde. Pour que tu puisses faire l'unité de Tzedaka et Mishpat. D'accord? Donc, Vayomer Hashem, et Dieu dit, Zarakat Sedom et Amora qui rabat vechatatam qui gavna meod. Le cri de Sedom et Amora est grand. Leur péché est très lourd. Erdana, il faut donc que je descende. Ça veut dire se descendre, se révéler. La révélation a pour conséquence le jugement. Quand il y a révélation, il y a jugement. C'est-à-dire, vous savez que les valeurs, où est-ce qu'elles sont? Les valeurs, elles sont dans le ciel. Nous, on est sur la terre. On essaie de suivre les valeurs. Ça s'appelle Yirat Shamayim. Mais on a très peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est-à-dire que les valeurs descendent sur terre pour nous juger. Est-ce qu'on est en accord avec elles? D'accord? Comment?
Pas toutes
les valeurs. Non, un petit village. Mais c'est très dangereux que le ciel nous tombe sur la tête, mais ne t'en fais pas, c'est pas de mal à veille. C'est-à-dire que ça se passe de temps en temps dans l'histoire, Il y a des moments où le ciel tombe sur la tête et alors nous sommes jugés. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à propos de Sodome, comme pour le déluge. Je vais descendre. Comme pour la tour de Babel. Erdana, il faut donc que je descende. Ver et pour voir. Alors là, le texte est extrêmement anthropomorphique. Aketsar Katab, s'ils ont fait ce que leur cri qui vient à moi, et là ils l'ont vraiment fait, alors je les détruirai. Vehimlo, sans quoi, et da, je saurais bien quoi leur faire. Bon, alors il y a autour de ce verset beaucoup de considérations théologiques, entre autres celle du Ralbag. Mais essayons d'aller un peu plus vite. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a ici un problème. Comment est-ce que ça se fait ? Comment est-ce que Dieu connaît à l'avance ce qui se passe ou pas ? Vaïfnou Misham Anashim. Les hommes tournèrent de là-bas, Vaïelechou Sedoma, et allèrent en direction de Sodome. C'est-à-dire qu'Avram voit le jugement en train de se faire. Il y a une sorte de descente, de révélation. Ve'Avram, Omed, Odenu Omed Ifne Hashem, et Avram était encore debout devant Dieu. Combien d'hommes descendent au fait ? On verra par la suite qu'il y en a deux. Combien d'hommes sont apparus à Avram ?
Trois.
Regardez la scène. Il y en a deux qui descendent et Avram est encore devant Dieu. C'est comme si Dieu était un des trois. D'accord ?
Ou qu'Abraham, c'est un des trois.
Ou qu'Abraham, c'est d'après le Zohar, on avait vu. Mais on peut dire que c'est comme si dans la représentation, Dieu était apparu sous forme d'un homme qui a deux accompagnateurs. D'accord ? Vous voyez l'anthropomorphisme extrêmement fort. Mais c'est tout à fait possible dans une prophétie. Ça ne dérange personne. Bon. Vaïgash Avraham, et Avraham se présenta. Ça veut dire quoi ? Il se présenta ? Il a fait la guerre. Il a combattu. Vayoma, et il dit. Et là, il y a toute une série d'argumentations d'Abraham, tout un dialogue extrêmement pathétique que nous devrons étudier la prochaine fois. Shalom.